Et salut à tous la communauté de Jeep, c'est le retour de Wolui L'Oréal. Forcément, quand je suis là, l'autre Kikou n'est pas trop loin.
Kikou.
Voilà, Seden il est avec moi. Normalement, vous enregistrez ça, c'est un premier essai. Retour de la team Jeep, retour du contenu. Non, parce que maintenant, on va le dire, hein, y a des abonnés premium. Et du coup, ils payent notre salaire. Notre salaire, Den, qui vaut à...
900 roupies.
Environ. Par an. Et des paquets de Chocotoff.
Et on est sur des années du calendrier Maya. Hein. Donc, pour vous donner une idée, au bout de 34 mois, on a le droit de demander où est notre salaire.
C'est ça. Du coup... Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de vous faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Pas forcément des vidéos très très travaillées. Là, j'ai mis un petit peu de vue. Comme vous voyez, il y a les pubs, etc. Parce qu'il faut soutenir The Jeep. Mais vous pouvez juste la laisser en fond, nous écouter tel un podcast. Je pense que je vais faire une version purement audio aussi pour pouvoir le mettre en podcast, que vous puissiez télécharger ça. Voilà, alors pour l'instant, pas de nom pour cette émission, pas de générique. Déjà, je trouve un nom, dites-nous des noms dans les commentaires, et quand j'aurai un nom qui me plaît, je ferai un générique. Voilà. Du coup, voilà, débat, pas une heure, mais on va passer quelques temps, on va vous dire ce qu'on pense de tout ce qui va se passer cette nouvelle année sur Hearthstone, et voilà, on se retrouvera régulièrement pour essayer de vous faire partager notre vision des choses, et partager avec vous aussi, parce que c'est ça l'important. Du coup, Imhotep, voilà, dès en ce moment, aime beaucoup le mot Imhotep. Du coup, on commence tout de suite avec l'année du mammouth, bien entendu, une année aussi énorme qu'un mammouth. Alors, l'année du mammouth, plusieurs choses. L'année du mammouth, déjà, c'est, alors ça, on le savait, plusieurs sets qui vont partir. On va avoir... BlackRock, on va avoir la Ligue des Explorateurs. Il m'en manque un, Den.
Le grand tournoi.
Et,
back.
Voilà. Donc ça déjà, Den. Est-ce qu'on était hypé pour que ces extensions partent de base?
Moi de base, ça m'embête un peu. Oui. Ça m'embête un peu que BlackRock partent parce que malgré le fait que Blizzard ait dit que les dragons étaient une part importante du lore de Hearthstone, quand BlackRock va disparaître, je ne vois pas quel deck dragon va rester en vie. On perd toutes les cartes qui font les meilleurs decks dragons, on perd la 3-6 taunt qui est la seule chose qui fait que les dragons peuvent se comparer à des decks agressifs. On perd la 5-3 qui met 3 dégâts, qui fait que les decks dragons sont des très bons decks de tempo. On perd quoi encore? On perd la technicienne, parce que après tout, une 3-5 pour 3, il faut croire que c'est pas assez bien. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont disparaître. Je vois pas du tout comme des decks comme prêtre dragon, guerrier dragon, etc. rester en vie.
Oui, comme on va pouvoir le voir après, c'est pas les seuls dragons qui vont partir, donc c'est vrai. Dragon en moins, on était content parce que il y a pas mal, on va le dire, voilà. Shaman, c'est OP depuis un certain temps maintenant. Shaman va perdre les cartes OP de son line-up. Un certain nombre, en tout cas, des cartes OP qu'il avait à sa disposition, notamment Trog et Golem Totem.
Ah ben là, on parlait de BlackRock. La Ligue des Explorateurs va foutre aussi un gros coup de balai pour les gens qui suivent les qualifications aux Bahamas actuellement. Vous prenez les 4 decks les plus joués, Reno Mage, Reno Warlock, Shaman, Guerrier Pirate. Shaman Aggro, il perd son meilleur T1, son meilleur T2. Reno Mage perd sa carte maîtresse, Reno Warlock perd sa carte maîtresse. Voilà.
Et
là, on parle juste de la Ligue des Explorateurs. Hein.
Et dans tout ça, le guerrier s'en sort pour le coup plutôt pas mal. Donc voilà.
Les pirates, c'est cette année, donc ils s'en sortent plutôt pas mal.
Jusque-là, on était motivés par l'année du mammouth, qu'on ne connaissait pas encore l'année du mammouth. On ne savait pas ce que ça allait être comme nom. Mais on n'était pas plus hypé que ça. Et là arrive l'annonce, et du coup, on va faire les choses de manière correcte, une par une. D'abord, certaines cartes du classique qui partent du set classique, tout simplement, qui vont aller dans le Hall of Fame. Déjà, avant de parler des cartes en particulier du choix qu'ils ont fait, moi il y en a pas mal que j'aime beaucoup, mais d'autres moins, mais on va en parler après. Déjà, cette idée de sortir des cartes, les mettre dans le Hall of Fame, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, quand on dit le Hall of Fame, c'est juste le mode libre, hein.
Oui, mais c'est-à-dire que
Voilà,
ce sera un
c'est.
truc, ce sera un set particulier.
Voilà, mais quand on dit Hall of Fame, en fait, c'est des cartes qui, normalement, ne devraient pas pouvoir sortir du standard parce que. Cartes classiques. Mais Blizzard a trouvé un moyen de les sortir du standard parce que, pour l'instant, la raison principale, c'est que ça provoque des blocages au niveau des designs des futures extensions. Qu'est-ce que j'en pense? La création de ça, je suis d'accord avec le fait que oui, il y a certaines cartes du mode classique qui ne peuvent pas rester dans Hearthstone en mode compétitif. Alors standard, pour l'instant, c'est compétitif parce que tous les tournois sont standard. Peut-être qu'un jour, il y aura un mode compétitif qui se débloquera
Ouais,
sur le mode libre.
on va en
Mais voilà,
parler
pour
après, oui.
l'instant, quand on dit compétitif, synonyme standard.
Ouais.
Je pense que oui. Pour l'instant, on n'a pas la justification parce qu'on n'a aucune idée, comme tu l'as dit, de qu'est-ce que va être cette extension. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est bien fait ou mal fait, puisqu'on ne sait pas par quoi ils vont remplacer. Mais oui, il y a des cartes du set classique qui, en termes de niveau de puissance, sont au même niveau que des cartes qui sont considérées comme OP. Dans les autres sets, et comme les autres sets, on peut les faire disparaître, mais pas le classique, il fallait bien trouver un moyen,
Et c'est
et
ça
du
parce
coup,
que
le Hall of Fame est un moyen.
c'est ça le gros problème qu'avait Hearthstone, et on l'a vu. Déjà, j'ai été le premier, Den, il m'a vu lui sauter dessus quand l'année du Kraken a été annoncée. Et je lui ai dit, ah, c'est trop bien. Parce que les sets qui tournent, moi, c'est quelque chose auquel je suis habitué. J'ai joué à WTCG, j'ai joué à Magic. Les sets qui tournent, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais. Je pensais vraiment que l'impact allait être beaucoup plus fort. Et en fait, il l'a pas été tant que ça. Et je pense que Blizzard a eu exactement la même chose. Certains l'avaient dit. Et je m'étais dit, ben non, parce qu'avec les nouveaux sets, etc., ça a changé. Mais ils sont pas allés assez loin sur les nouveaux sets pour qu'il y ait vraiment un switch. Et c'est vrai qu'il y a des cartes qui définissent, même si elles sont pas particulièrement jouées, elles définissent le metagame par les capacités qu'elles donnent. Et par les balises qu'elle pose, en fait. Je m'explique, mais vous la voyez, la première carte, on passe dessus très très vite, Drake Azur. Drake Azur, c'est une carte, tu peux pas faire une carte plus forte au tour 5.
Enfin, si, tu peux faire plein de cartes plus fortes, mais tu ne peux pas faire de cartes plus fortes dans n'importe quelle situation.
Voilà, mais tu peux faire des cartes plus fortes, mais situationnelles, ou dans un deck en particulier, mais en tant que carte qui peut rentrer partout, que carte neutre, totalement neutre, et en plus elle est dragon, tu peux pas faire mieux qu'un T5 qui est qu'une 4-4, qui te fait piocher, qui a du dégât des sorts, qui a un tribe. Parce que tu peux le faire, hein, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire une 8-8 pour un qui a pas d'effet et que quand tu la poses, ça dit que ton adversaire est obligé de te donner 10 euros. Si tu veux faire la carte, tu peux la faire. Mais pour l'équilibre du jeu, tu peux pas faire plus fort que Drake Azure. Et du coup, ils ont été gênés par ça, et c'est pour ça que Drake Azure se retrouve dans tous les decks, parce
En tout
que
cas, plus polyvalent que Drake Azure, tu peux pas.
voilà, et il se retrouve dans quasiment tous les decks, et il trust véritablement le tour 5, tout simplement parce que il est beaucoup trop fort. Il regarde le reste du jeu et il lui dit, bah ouais, moi je suis mieux. Ils avaient fait des bons T5 qui ont été sortis parce que les cartes aussi étaient trop fortes. Je rappelle que, par exemple, je pense que Sludge Belcher en français, c'est
Crash vase,
Crash
crash
Vase.
vase.
Crash Vase, carte de Naxxramas, pour ceux qui ne se rappellent pas et qui ont commencé à jouer après. Crash Vase, c'était une 3-5 taunt pour 5 qui popait une 1 de taunt. Ça aussi, c'était totalement OP comme carte. Et ça te bloquait tous tes taunts. Tu pouvais pas faire de meilleur taunt. Sauf si tu déséquilibres totalement ton jeu et tu tombes dans du power creeping. Où tu fais des cartes de plus en plus fortes. Et c'est pas ce que Blizzard veut faire. Donc, je pense que c'était vraiment bien de faire ce Hall of Fame. Personnellement, je pense qu'ils sont pas allés assez loin et je pense qu'il y a d'autres cartes qui auraient mérité le traitement.
Moi, je pense que sur les cartes neutres, je comprends la justification, même s'il y en a une ou deux sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Par contre, tant qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas critiquer ces choix, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que ces choix sont mauvais tant que on n'a pas l'extension du mammouth. Oui, voilà, si il n'y a pas un tour 6 qui sort ou s'il n'y a pas un tour 8 qui sort ou truc comme ça sur l'année du mammouth, oui, on pourra leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait chier à mettre des cartes dans le Hall of Fame si c'était pour ne rien faire à la place? Oui. Mais si il y a des cartes qui, en effet, quand tu les regardes, tu dis, bah tiens, si la tour 5, j'avais Drake Azur, je ne la jouerais pas, Blizzard aura eu raison.
Ça, du coup, on va commencer à les regarder une par une. Donc, Drake Azur, voilà, je pense que
C'est le
on est déjà
couteau
passé dessus.
suisse absolu. Il est dans tous les decks dragons, il est dans tous les decks dégâts des sorts et il est dans tous les decks qui manquent légèrement de pioche. Donc druide, chaman, voilà. C'est tous les top decks du méta, donc voleur miracle, chaman, et tous les decks dragons, ils ont Drake Azur dedans.
Tant que t'es pas un
C'est.
truc qui arrête ta curve à 4, un ultra aggro, tu mets Drake Azur en fait. Quasiment.
Et même chaman face. Il n'y a que Guerrier Pirate qui est plus aggro que Shaman Face
Ouais.
actuellement. Et Shaman Face, il a un Drake Azur dedans.
Et les contrôles, voilà, les decks réno, bah tu mets un Drake Azur.
Non, il n'y a que Mage. Démoniste le met pas.
Oh, ça dépend,
Prêtre
j'ai vu des listes avec, hein.
le met, Mage le met, Démoniste le met très très rarement.
Mais après le démoniste, c'est parce qu'il a un pouvoir.
Parce que
Mais
voilà, Démoniste, il a un cas particulier. Lui, quand on lui dit pioche, il te fait pourquoi?
Voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit, etc. C'est que cette carte fait de l'ombre. Et par exemple, il y a une carte que j'aime bien dans la dernière extension, dans Gadgetzan, qui est le Burly Bully. C'est la 4-6 qui fait des pièces quand votre adversaire joue des sorts. J'aime vraiment beaucoup cette carte. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Il est pas
Elle est
beaucoup,
bien.
elle est bien, mais actuellement, elle est pas énormément joué parce que Drake Azur c'est mieux. Pas de beaucoup,
En
mais un
fait,
peu.
le problème de Burgly Bully, c'est que ça donne une pièce qui du coup va être activée par un autre effet. Et quand elle est sortie, tout le monde l'a vu avec Commissaire, donc qui fait piocher. Ensuite, elle a été vue avec Antonidas, mais Antonidas, c'est un effet totalement à part. Mais voilà, du coup, si on voit l'effet Commissaire, c'est. Pour 5, j'ai une carte qui, si mon adversaire joue un sort et que j'ai commissaire dans la main, je vais piocher des cartes. Et à côté, vous avez une carte qui dit, tu la joues, tu pioches une carte. C'est un exemple type de pourquoi on ne peut pas enlever Drake Azur. Parce qu'il y en a un qui dit, tu dois me poser que mon adversaire joue un sort et que tu as la carte qui combat avec. Et le Drake Azur qui arrive à côté et qui fait, moi je perds 2 PV, mais je te donne la carte directe. Hein.
Oui, puis en plus, quand je joue, mes zones elles font plus de dégâts, etc. Voilà, Drake Azur, voilà, je pense que tout le monde est d'accord sur Drake Azur. Parce que tout simplement, c'est vraiment la carte qui prend le spot. Comme à une époque, le T4, avant l'année du Kraken, le T4 était pris par des Shictors et tu pouvais pas faire grand-chose. Et le T7 était pris par Dr. Boom et tu pouvais pas faire grand-chose. Je pense que le T5, tu pouvais pas faire grand-chose de mieux. Et qui te pousserait vraiment à pas mettre de Drake Azur dans énormément d'archétypes de deck. Donc voilà, on est à dragon au moins, encore une fois. Donc est-ce qu'ils vont remettre des dragons ou alors est-ce qu'on va perdre un peu l'archétype dragon
Après, là,
pendant quelques
voilà,
mois?
les dragons, va falloir vraiment, par contre, qu'ils en mettent. On parle de 5 ou 6 dragons minimum pour que les decks dragons restent en vie. Hein.
Voilà, après, il y a des rumeurs. Un'Goro, c'est pas beaucoup les dragons. Mais c'est qu'une rumeur, peut-être que ce sera pas ça. Donc de toute façon, on verra ensuite. Deuxième carte, Sylvanas Courcevent, qui est exactement la même chose en fait, hein, Sylvanas Courcevent.
Ça, je suis beaucoup moins d'accord.
Moi, ça fait pas mal de temps que j'annonçais que Sylvanas devait prendre un nerf. Le problème de Sylvanas, c'est que tu ne peux pas faire de bons de vraiment très très bons bonus au Death Rattle tant que t'as Sylvanas qui est dans le jeu.
Ça, je
Parce que
suis d'accord.
son effet est
Mais
beaucoup trop puissant.
oui, alors ça, je suis d'accord que Sylvanas, en termes de pouvoir pur, si on ne regarde que le texte de la carte, Sylvanas a le meilleur effet du jeu. Par contre, Sylvanas, elle a un contre simple, c'est tu joues aggro. Alors oui, du coup, ça fait des métagames un peu dégueulasses, mais comme ça fait 1 an et demi que le meilleur deck du méta, c'est un deck aggro à chaque fois, je trouve que Sylvanas au Hall of Fame, à moins que l'année du mammouth soit sous le signe du on va vous donner que des cartes contrôle, je suis pas sûr que Sylvanas soit vraiment justifié.
Bah, moi, tu vois, je suis totalement d'accord. Déjà, un, parce que ça gêne la création de cartes Death Rattle. Et que donc, ça dérange un petit peu la chose.
Ouais,
Malgré tout, en carte à 6 cristaux de mana, bah, Sylvanas, ça reste une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte.
mais là-dessus, voilà, je suis totalement d'accord avec toi que si on parle de niveau de cartes, c'est-à-dire si on prend les cartes individuellement, oui, mais dans un metagame complexe,
Oui, mais c'est.
Sylvanas est quand même beaucoup plus facile à contrer que Drake Azur.
Oui, mais c'est pas grave, le truc c'est qu'il voit dans des métagames, les Sylvanas, t'en avais dans tous les decks, et tu sais très bien que des fois, piocher ou pas ta Sylvanas, une Sylvanas ça peut faire la game. Et en fait, je pense que
Oui,
c'est le
et
souci, je pense qu'ils veulent enlever, un, les cartes qui peuvent faire la game, et deux, quelque chose qui est enlevé, parce que des fois, ça a joué des games, c'est que c'est le contrôle d'un serviteur adverse, aléatoire. Et je pense que malgré tout, on a eu très très peu, voire quasiment pas, d'effets aléatoires sur Gadgetzan. Si ce n'est des effets de trucs funky, mais tous les trucs qui sont joués dans Gadgetzan, c'est pas des effets aléatoires. Je pense que Sylvanas continue. Ils veulent de plus en plus enlever les effets aléatoires. Et une autre carte qui est exactement dans le même cas que Sylvanas, et qui a aussi le truc aléatoire, et qui aussi casse un slot, c'est celle d'après, c'est Ragnaros, le Seigneur du Feu.
Alors Ragnaros, par rapport à Sylvanas, c'est complètement différent. Parce que pour moi, le vrai problème de Ragnaros, c'est que par son effet, il avait charge. Et une 8-8 charge dans le jeu, c'est totalement ouf.
Une 8-8 charge qui prend pas de dégâts.
Voilà, en
Et qui
fait,
potentiellement peut passer derrière les taunts. Enfin, c'est vraiment.
voilà, en fait, c'était vraiment ça le problème de Ragnaros pendant très longtemps. Avant, je sais pas à quel moment ont eu lieu les nerfs. Après Karazhan, il me semble, ou avant Karazhan, enfin dans la période Karazhan, le Ragnaros, il avait un contre simple, c'était BGH. Quand BGH s'est fait nerfer, si tu ne joues pas un deck aggro, Ragnaros te pètera la gueule à un moment ou un autre.
Oh, c'est il y a longtemps, BGH et c'est Kraken.
Oui, mais c'est Kraken, du coup, c'est cette année. C'était All Gods, du coup.
C'était All Gods, oui.
D'accord, donc pour All Gods. Mais voilà, il y avait vraiment ce problème-là que si tu n'as pas BGH dans ton deck, à part Démoniste qui avait le siphon, et ben Ragnaros, il te regarde et il fait vas-y, mets ton board. Et tu mettras ton board que à la condition que j'ai pas déboîté ta meilleure créature sans prendre de dégâts.
On a vu des games totalement être gagnés par Ragnaros seul. Dans pas mal de decks, il se suffisait comme condition de victoire. Et je
Oui.
pense en plus de ça que voilà, on a vu des games où le gars il a un full board, il lui reste 7 PV, et t'es là et tu fais vas-y Ragnaros, seigneur du feu! Attaque mon ennemi! Et là t'as la boule de feu qui part pleine tête. Et quand c'est toi qui le fais, t'es heureux, mais quand t'es en face,
Alors, ça encore, c'est des effets aléatoires qu'on peut. Voilà, ça existe.
oui, c'était pas un mauvais aléatoire, Ragnaros. Ragnaros comme Sylvanas, c'était pas des mauvais aléatoires. C'était des aléatoires que tu pouvais, prévoir, que tu pouvais tourner autour de cet aléatoire pour réduire les chances, voire être sûr de l'effet que tu obtiendras. C'est pas comme des Déchiqueteurs ou des choses comme ça, ou Docteur Boom, où c'était vraiment un mauvais aléatoire. Mais malgré tout, je pense qu'ils vont de plus en plus vers on veut un jeu où le meilleur joueur va gagner et Ragnaros voilà, c'est un trop fort parce que tu le joues en contrôle, tu le joues même en aggro des fois, en la fin de curve de l'aggro, tu mets Ragnaros et c'est pas normal qu'une carte elles se disent, ouais, bah, que ce soit en midrange, en aggro ou en truc, on peut me jouer partout. On peut me jouer partout, partout, je suis bien.
Bon, en fait, c'était vraiment ça le problème de Ragnaros, c'est que avec la le je sais pas le décuplement de la puissance des cartes entre 4 et 7, en fait, on arrivait à un moment où tour 8, où Ragnaros, il arrivait comme ça, il faisait t'as tout claqué. Ben, à partir de maintenant, je vais mettre 8 au pif à tous les tours. Et c'était vraiment ça le problème, en fait. C'est que Ragnaros, il provoquait vraiment ce sentiment d'injustice, de putain, j'ai galéré, ça fait 4 tours que je me bats. Et là, maintenant, le truc va juste me tuer sans prendre de dégâts, quoi. Et c'est une 8-8. Et du coup, alors oui, Ragnaros, dans les decks où il est joué, très souvent, si tu le gères, tu gagnes. Mais le problème, c'est que si on fait la liste des trucs que t'as eu à gérer avant, c'est un petit miracle si tu tues Ragnaros.
Ah bah mais c'est souvent la condition de victoire. Et même dans je me rappelle dans le guerrier tempo, bah guerrier tempo c'était un deck où t'allais dans la tête et t'avais Ragnaros à la fin parce que ça mettait 8. Voilà, et que si l'adversaire il a pas de quoi le gérer directement, bah voilà, il a mis 8, il a pas pris de dégâts, ça peut passer derrière un taunt, c'est fou. Et alors là où je suis très très content, c'est que Blizzard a vraiment marqué, là vous le voyez, c'est écrit sur votre écran, c'est exactement ce qui se passait dans la tête des joueurs. Quand un nouveau. Même nous, on l'a fait. Je suis sûr que même nous, on l'a fait quand on a fait des reviews. Quand un nouveau T8, T9 sortait, la première
Bah.
question que tu te posais, c'était: est-ce que c'est mieux que Ragna? Tu te disais pas: est-ce que dans tel deck c'est bien? Non, c'est: est-ce que c'est mieux que Ragna? Parce que Ragna, tu peux le mettre dans tellement de decks que. Voilà. Donc, c'était vraiment une balise. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir des balises dans leur jeu de cartes. Ils ont envie d'avoir un T8 qui est bien dans tel deck, un T8 qui est bien dans tel deck, un T8 qui est pas top, mais dans ce deck-là, il est jouable. Ils veulent vraiment qu'il y ait plus de cartes jouables et donc plus de situations auxquelles s'adapter. Parce que s'il y a 3 T8 différents qui sont joués parce qu'ils sont en fonction des decks, ça demande aux joueurs d'avoir plus de skills, d'être meilleurs parce qu'ils vont devoir apprendre à jouer autour de 3 T8 différents. Au lieu de se dire, ok, moi j'apprends à jouer autour de Ragnaros.
C'est un peu ça. C'est un peu la même chose que Dr. Boom, mais Dr. Boom est sorti du méta de lui-même parce que il était en standard, enfin il était en gobelin et gnome. Dr. Boom, 2 semaines après sa sortie, il était dans tous les decks. Tour 7, voilà, c'était tour 7 Dr. Boom, tour 8 Ragnaros, et on n'y a pas touché. Et Dr. Boom est sorti du standard, mais Ragnaros n'en est jamais sorti. Et du coup, Ragnaros a perdu en puissance. Parce que du coup, bah, il suivait pas Dr. Boom.
C'est vrai qu'il y a eu
Mais.
un vrai moment comme ça où on se regardait et on faisait, bon bah, quand on faisait la curve d'un deck, on faisait, ok, alors T4, Déchiqueteur, T5, en
Horeb
fonction
ou
du
Crash
deck,
Vase.
c'était soit Horeb, soit Crash Vase, soit Drake Azur. Et on
Voilà.
pouvait piquer un peu plusieurs dans les trois. T6, Sylvanas, T7, Dr. Boom.
Voilà.
Sauf quand t'étais Paladin, T6, c'était
Adversaire mystérieux
Adversaire
et
mystérieux et T8
T8.
Ragnaros.
Oh, t'avais Tyrion de temps en temps, les
Ouais,
mecs étaient un peu.
t'as les gars qui jouaient Paladin, ils jouaient Tyrion. Puis après, bon bah les Paladins ils sont mis à jouer et Ragnaros et Tyrion et l'autre Ragnaros. Parce que tu comprends, avoir des T8 c'est rigolo. Mais donc voilà, on est d'accord sur Ragnaros. Les cartes, je trouve que c'est bien parce que c'était des cartes balises. Ils veulent les sortir, ça va permettre de créer pas mal de choses. Et du coup là on arrive sur les cartes qui sont un peu plus discutées et discutables. Les cartes de classe, on a la première, c'est la puissance accablante. Moi qui adore le démozo, forcément ça me fait un peu mal. Ils aiment pas les combos en fait.
En fait, je pense, sur leur carte de classe, je pense qu'ils ont été biaisés par le metagame actuel. Honnêtement. Parce que le seul moment où puissance accablante est un combo, c'est avec Leeroy et Manipulateur. Et ce combo n'existera plus quand Reno va sortir du méta. Donc je pense que c'est une surréaction et qu'ils pouvaient attendre la deuxième extension de l'année du mammouth pour voir s'il y avait un moyen d'utiliser ce deck sans Reno.
Après, ils ont peut-être le souvenir d'une époque bénie du zoo, où je te rappelle que des fois tu faisais charge soit un Leeroy, soit une 2-1 charge, et tu faisais 3 puissances accablantes dessus et tu gagnais la game.
Oui, après, du coup, le colporteur sort, il
Le
me
colporteur
semble.
sort, mais tu vois, on n'est jamais à l'abri qu'il y a autre chose qui sort, tu vois, mais
Voilà,
même
après,
double
c'est vrai que
PO pour
voilà,
2.
en zoo, c'était extrêmement fort, puissance accablante,
Pour 2, tu mets
mais
8, quoi, c'est trop fort.
ben, c'est trop fort, oui, mais la créature meurt. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que la carte était balance. Après, je sais pas si le fait de la sortir, c'est bien. Après, avec la disparition de Reno fait que le démoniste combo va sortir. Le zoo, il joue Soulfire parce qu'il a son petit gobelin complètement OP actuellement qui est là. Donc, je sais pas si la disparition de puissance accablante, ça va être. Est-ce qu'on va vraiment la sentir passer en fait? C'est ça ma question. Ça, j'en sais rien.
Moi, je pense que ça va vraiment faire
Donc voilà.
mal à Zo. Mais on verra en tout cas. Voilà. Ensuite, Javelot de glace. Alors, j'avoue que c'est celle qui m'a le plus surpris personnellement. Ils enlèvent Javelot de glace parce que ça crée beaucoup trop de dégâts à partir de rien. En fait, c'est pareil. Hein. C'est Javelot de glace, c'était 8 points de dégâts pour 2. Quand t'es en mage free, c'était 4 et 4. Au final, puissance accablante, c'est pareil. Les deux cartes, c'est pareil. C'est qu'ils veulent enlever du burst. Ils ont plus envie qu'on ait 15 HP et que d'un coup, les pains de vie fassent. Eh, bye bye! Et là, Dan
Ouais,
réfléchit.
non, encore une fois, moi je pense qu'ils ont été biaisés par Torissant. Si t'enlèves Torissant, les 80% des fois où Mage Freeze gagne un match disparaissent. Javelot de glace est complètement OP parce que quand tu mets Torissant dessus, elle coûte 0. C'est la force des sorts à 1. C'est qu'il y a une carte qui fait que ça coûte rien. C'est gratuit. Alors oui. Dans le combo du Mage Freeze, c'était un sort qui, pour 0, mettait 8. Enfin, non, 6, pardon.
Bah non, 8.
Non, 6, oui, 8 si t'en avais 2. Mais 6 avec le kobold évolué. Et le
Ouais.
combo, c'était kobold évolué pour 3, boule de feu, éclair de givre, javelot, javelot. Et du coup, tu mettais 30. Si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, ça fait 16 et 5, 21. Et 10, 31. Voilà. C'était le combo qui disait. Tu peux être n'importe quel deck, si tu n'es pas un guerrier, tu vas mourir.
Après, est-ce qu'on peut pas y voir aussi le fait que ils en ont plein les bobbles de Mage Freeze et qu'ils ont plus envie de le voir dans le metagame.
Oui, mais encore une fois, comme Mage Freeze sort du méta, je me demande si c'est pas une surréaction. Tout simplement.
Bah, après,
Parce
ça fait
que.
depuis le début du jeu que Mage Freeze est jamais totalement sorti. C'est un deck qui a toujours été présent et qui est jamais totalement sorti du méta.
Oui, mais
Je veux
dans le
dire, il y
méta.
avait,
Enfin, en
y
fait.
avait que deux, y avait que deux decks comme ça dans Hearthstone jusqu'à il y a très peu. C'était Zo et Mage Freeze. Et aujourd'hui, Zo ne fait plus partie du méta. Zo est pas bien en ce moment. C'est la première fois que c'est quasiment injouable de prendre un Zo. Alors que Mage Freeze, toujours. Tu peux toujours amener Mage Freeze. Peut-être qu'ils en ont marre et qu'ils veulent juste se dire, ok, on est allé trop loin parce que ce deck, quoi qu'on fasse, quelles que soient les extensions qu'on sorte, bah il y a toujours ce deck qui traîne dans la méta, quoi.
Ben ça, je me pose la question justement parce que Mage Freeze, en fait, je suis d'accord qu'il a toujours été dans le méta, mais à l'inverse de Zo, ça a jamais été un top tier. Il a quasiment jamais été tier 1 depuis Naxxramas.
Après, c'est aussi parce que les très bons
Depuis que
joueurs de Mage
Naxxramas
Freeze,
est
c'est rare.
sorti, pardon, voilà, mais depuis que Naxxramas est sorti, Mage Freeze n'a quasiment jamais été un deck tier 1. Et les seules fois où Mage Freeze avait une chance dans le méta, c'est quand il y avait un Torissant magique et que tu avais la curve parfaite avec Alexstrasza, etc. Et c'est pour ça que je me pose la question, avec Torissant qui sort du méta, est-ce que Mage Freeze va pas devenir trop lent pour se battre à armes égales avec. Ben n'importe qui d'autre au final.
Bah après ça dépend parce que tu vois c'est pareil. Ils disent aussi un truc qui est vrai, c'est que plus t'as de cartes à bas coût, plus mettre de la puissance mettre de la puissance des sorts, c'est dangereux. Et actuellement, le mage en avait trop. Avoir une carte qui coûte 1. Parce que, voilà, avoir
Oui,
javelot.
oui et non, parce que si tu regardes, bah, Drekazur sort, donc une des meilleures dégâts des sorts s'en va. Le kobold coûte 4,
Oui, mais
donc
le truc, c'est que
non, mais
je te parle pas.
quand Orisan s'en va, ça fait que maintenant tu rentres maximum 3
Je
sorts
te
avec
parle
ton
pas
kobold.
d'aujourd'hui. Je te parle de design futur. Parce que le truc, c'est que dans les designs futurs, peut-être qu'ils vont avoir une extension basée sur la magie, sur le fait d'avoir plein de dégâts des sorts de partout qui pop, ou peut-être une autre mécanique très forte qui fait qu'avoir trop de bonnes cartes à 1, et le démoniste en a un peu trop, ils en enlèvent une, le mage en a un peu trop, ils en enlèvent une. Est-ce que c'est pas. Parce que voilà, nous, on n'a pas l'image. Eux, ils connaissent déjà quasiment les 400 cartes qui vont sortir pour l'année du mammouth. Donc, moi, je suis assez d'accord sur le fait que javelot, ça peut gêner dans certaines dans certaines situations de design.
J'ai envie de te dire d'accord, mais déjà actuellement, c'est pas une carte qui gêne vraiment dans le méta actuel. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'en occuper? Je suis pas convaincu du tout.
C'est vrai. Et du coup, dernière carte, et encore une carte à 1. Pour le coup, ils y sont allés sur les cartes à 1 de classe. C'est le dissimulé. Dissimulé, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la carte. C'est un petit peu la carte la plus dégueulasse du jeu à l'heure actuelle. Moi, je trouve que c'est la carte la plus horrible. Pour vous dire, on en a pris deux tout à l'heure en jouant une partie avec Den. On était en PLS, c'est une carte qui enlève toute interaction. Ça oblige à jouer des trucs bizarres, à jouer. Enfin, c'est vraiment pas une bonne carte. Dans un jeu où tu ne peux pas faire d'interruption comme dans Hearthstone, tu ne peux pas dire qu'il y a une carte qui permet plus à l'adversaire de faire des choix. Parce qu'en fait, cette carte, elle enlève le gameplay à l'adversaire. Et c'est horrible comme design de carte. Et là, Dan est d'accord.
Bah, le raisonnement est totalement logique et oui, je suis d'accord avec le fait que Dissimulé est une carte qui toute seule faisait gagner des matchs à voleurs juste en disant compte bien les dégâts sur le board parce que tu vas les prendre au prochain tour.
Bah oui, et le truc c'est que t'avais déjà. Ils avaient commencé, ils avaient enlevé. Ils avaient baissé l'effet
La maîtresse du
de la
camouflage.
maîtresse du camouflage. Et parce qu'ils ont bien compris que dans le futur, c'est dérangeant, en fait. Le camouflage, c'est vraiment une mécanique qui est dérangeante. Quand tu peux la. C'est pas une mécanique qui est dérangeante en soi, parce que par exemple, si tu la mets sur. Par exemple, là, on a Shaku ou Finja, des cartes comme ça. C'est très bien sur ces cartes-là, parce que ces cartes, elles sont tailor pour être stealth. Si elles n'avaient pas stealth, elles ne serviraient absolument à rien. Ce seraient les pires cartes du monde. Mais comme elles ont stealth, t'es sûr que tu vas pouvoir faire une attaque avec elles, et donc avoir une certaine value. Excusez-moi. Donc, c'est pas un problème la mécanique de stealth. Le problème, c'est de pouvoir dire que n'importe quelle autre carte du jeu gagne stealth. Parce que tu ne peux pas faire des cartes qui demandent à être répondu de suite. Voilà, si tu fais une carte qui fait, je sais pas, qui fait un effet super fort mais qui a très peu de vie, et tu peux seulement la trade, tu vois, un truc genre, elle prend pas les dégâts de sort, et si tu la tues pas, ça devient une 9-9. Bah, le problème, c'est que tu peux pas la sortir, cette carte. Aujourd'hui, tu peux la sortir, tu fais une 0-1 qui coûte 3 et que ça devient une 9-9. Tu vois, tu la sors, le mec il dissimule, ça devient la carte la plus OP du monde et ça te casse le jeu. Quand il n'y aura plus dissimulé, ce sera plus pareil.
Oui, après, le seul souci que j'ai avec ça, c'est que Voleur va perdre et Dissimulé et Drekazur. Et du coup, en fait, moi, j'ai juste pas envie que Voleur, qui est une des classes les plus compliquées à jouer et les plus, entre guillemets, nobles de Hearthstone au niveau du combo et de la réflexion et de la
Ah, c'est
stratégie.
connu comme noble, oui.
Voilà, en fait, j'ai pas envie que ça devienne ce que Guerrier est actuellement, c'est-à-dire, bah, il y a un deck contrôle, mais le deck aggro est tellement fort en comparaison que pourquoi je m'emmerderais à jouer contrôle, en fait. C'est idiot de le dire comme ça, c'est extrêmement réducteur, mais malheureusement, c'est ce que Guerrier est actuellement. C'est ce que Shaman est un peu actuellement. Il y a 17 archétypes de Shaman qui existent et pourtant. Et pourtant, on joue que Shaman Aggro. Enfin voilà, j'ai pas envie que voleur, en fait, bah, que voleur pirate soit ultra fort, tout simplement parce que toutes les cartes de voleur miracle, on les a enlevées, quoi.
Mais le truc, c'est que franchement, moi, je pensais que ça allait être Gadget-Zan qu'allait souffrir. Et ils ont pas enlevé Gadget-Zan et. Ah! Den a une magnifique
Excusez-moi.
sonnerie de téléphone. Les gens qui auront reconnu seront des gens bien. Ils ont pas enlevé Gadget-Zan, qui est quand même le moteur de pioche, la base du miracle. Et ça, c'est plutôt bien. Et il y a eu des miracles pendant très longtemps, on jouait sans dissimuler, hein. Donc on pourra retrouver des trucs sans dissimuler. Je pense que ils vont sortir les cartes qui vont avec et que Rogue va avoir de beaux jours devant lui, mais voilà, il pourra plus te faire genre oui alors je fais ça, je fais ça, je fais ça, Van Cleef 14-14 dissimulé, pan dissimulé, t'as perdu là. Mais on est au tour 3, oui. C'était invraisemblable. Donc voilà, on a fait le tour de ces cartes-là. Mais c'est pas tout. Maintenant qu'on a fait les cartes, on va passer à d'autres trucs. Alors voilà, comme vous pouvez voir, on va récupérer de la poussière, ça c'est très bien, tout le monde est content. Nouvelle chose, dans l'année du mammouth, les aventures, bah, elles disparaissent. Et à la place d'avoir une aventure, et bien cette année on aura trois extensions de 130 cartes. Presque. Ils disent près de 130 cartes, donc on va dire grosso merdo. Moi je suis très 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 content et hypé par ce changement. Est-ce que tu partages ma joie et mon allégresse, Amiden? Alors que là, je ne l'entends plus. Donc, j'imagine forcément qu'il doit être en train de je ne sais pas, de dormir. Donc, il y a peut-être une petite déco. Fallait bien que ça arrive sur le premier numéro. C'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, moi je suis très, très, très content, tout simplement parce que bah on va avoir le droit à enfin un jeu de cartes. Ils ont compris que les gens qui jouaient Hearthstone étaient devenus, en tout cas, les gens qui jouent régulièrement étaient devenus des vrais joueurs de cartes. C'est plus juste des gens qui jouent sur mobile, juste des gens qui touchent le jeu comme ça, c'est vraiment des joueurs de cartes. Et un joueur de cartes, ça a envie d'avoir des nouvelles cartes. Ça a envie d'avoir des nouveaux archétypes, de faire des nouveaux decks, d'avoir un méta qui change, parce que quand on garde un méta pendant longtemps, c'est très très chiant. Donc voilà, ça fait près de 400 cartes. Ce qui fait près de 100 cartes de plus, hein, que d'habitude, et 100 cartes dans des. En plus, avec un set de plus, et qui dit set, contrairement à une aventure, dit vraiment un thème différent qui peuvent pousser beaucoup plus. Et vraiment, ils ont plus de place en fait. Le problème dans une aventure, c'est que vous avez un set de 30 et quelques cartes. Plus combien c'est exactement les aventures, maintenant c'est un peu plus, mais en gros c'est pas beaucoup. Et dans ces cartes-là, vous êtes obligé, si vous faites une aventure, voilà, ils ont fait une aventure sur Naxxramas, on est obligé d'avoir des trucs avec des Deathrattles et des Morbac et des trucs comme ça. Ils ont fait Blackrock, on était obligé d'avoir des dragons, des choses comme ça.
Je suis de retour.
Ah, le revoilà, je savais bien qu'il était parti au pot.
Excusez-moi. Non, pas du tout. Un problème d'un ami qui est absolument éreinté par l'alcool et qu'on m'a demandé si je pouvais loger.
D'accord. À consommer avec modération, bien sûr. Donc voilà, le problème d'une extension très courte comme ça, comme les aventures, c'est que vous êtes obligé de faire un certain nombre de cartes qui sont en rapport avec le thème. Donc, vous n'avez pas la place de mettre des cartes toolbox parce que vous vous êtes rendu compte. Ces cartes qui ne sont pas en rapport tout le temps. Toutes les cartes ne sont pas en rapport direct avec une extension. Elles sont proches, mais il y a toujours des petites cartes à côté qui tournent et qui peuvent passer d'une extension à l'autre parce que les designers voient qu'il y a plus ou moins le temps pour que cette classe ait cet outil qui lui manque vraiment de manière très importante ou pas. Donc je pense que ça va leur permettre de faire beaucoup plus de petits tinkering sur l'année et que ça va nous offrir un jeu beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Ten, toi, de ce nouveau de cette nouvelle nouveau planning d'extension?
Dans un sens, je suis assez d'accord parce que le problème qu'il y avait avec les aventures, c'est que dans les aventures, il y avait en permanence, je sais pas comment ils se débrouillaient, il y avait tout le temps une carte complètement pétée. C'est comme les aventures, ils sortaient pas beaucoup de cartes, ils se sentaient obligés de faire que des bonnes cartes, et du coup, les aventures changeaient encore plus le méta que les extensions, tout simplement parce qu'il y avait moins de cartes, mais dans les 40 cartes qui sortaient, tu pouvais être sûr qu'il y en avait une qui allait défoncer le metagame. Sur toutes les aventures, on peut y penser. Voilà, Naxxramas, l'aventure entière a cassé le metagame.
Naxxramas, c'était.
Voilà, sur la Ligue des Explorateurs, Bran, Reno, enfin, il y a eu une quantité de cartes qui ont également été qui ont eu
Il
un
est.
impact colossal. Sur Karazhan, on peut penser à la griffe du chaman qui a dit d'un coup, bon, bah, Shaman Face, vous aviez une chance, maintenant, bah, concédez direct, vous gagneriez
Portail
du temps,
aussi, hein.
les copines. Voilà, Portail de Maelstrom qui a dit, bah, ton seul counter qui est Tezo, bah non, maintenant tu seras 75% contre tout le monde, on n'est pas raciste, tu vas péter la gueule à tout le metagame, après tout, pourquoi on se priverait? Donc voilà, il y a eu plein, toutes les aventures ont eu une carte ou deux qui étaient complètement cassées. Et je pense que c'est une très bonne chose de limiter ça en termes de design et aussi du coup en termes de on n'est pas obligé de faire des trucs complètement ouf. Voilà, on peut se permettre sur 130 cartes de se rater, de faire du un tout petit peu moins bien, de faire du situationnel, de faire du key counter. Truc. Alors que sur les aventures, il faut que ce soit des cartes qui fassent tout, qui soient ultra fortes, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, partir sur des masses de cartes plus importantes, ça va limiter les problèmes de design.
Il y a plus d'espace de design, bien sûr, mais c'est surtout qu'en plus, je pense que eux, ils se facilitent beaucoup la tâche parce que je pense que les aventures, c'était pas simple du tout et que ça leur prenait beaucoup de temps à coder, notamment pour toute l'équipe technique. Je pense que les aventures, c'est vraiment ce qui leur prenait le plus de temps. Alors là, on va avoir apparemment des espèces de micro-missions, quêtes à l'intérieur, donc ce sera un peu à la fois des aventures. Et des sets, mais voilà, je pense que déjà le truc c'est que comme ils veulent un jeu plus compétitif, la sortie des cartes semaine après semaine des aventures c'est plus possible.
Après, il y avait ça aussi, c'est qu'en fait, une aventure, elle sortait sur un mois. Et pendant un mois, enfin, Blizzard ne pouvait pas organiser de tournoi compétitif. Genre, tu ne pouvais pas mettre une qualif aux mondiaux pendant un mois. Enfin, le metagame, c'était n'importe quoi pendant un mois, en fait, sur les aventures. Je ne sais pas comment résumer ça, mais pendant un mois, Hearthstone, il y avait un microcosmos autour du jeu. Et à chaque fois que tu mettais une game en ladder ou que tu allais en tournoi, tu avais absolument zéro idée de ce que tu allais affronter. Et ça tombait souvent à qui, dans les 9 ou 10 cartes de l'aile concernée, a trouvé la carte totalement pétée qui va gagner le match.
C'est ça, et c'était un peu gênant. Et puis on l'a vu, j'avais vu des stats comme quoi le dos de cartes que tu gagnes en finissant une aventure en héroïque, celui qui avait été le moins gagné, c'était celui de Karazhan. Ce qui montre bien que les gens avaient
Oui,
avant
ils ont
beaucoup
lâché
plus
l'affaire, quoi.
envie de jouer sur les aventures, maintenant beaucoup moins. Il y a les Tavern Brawl, va y avoir ces nouvelles émissions. Est-ce que les aventures sont encore au goût du jour? Je suis pas sûr. Moi, j'aimais beaucoup. Je pense qu'ils pourraient avoir toute une team pour bosser sur des choses. Des vraies aventures, mais des modes de raid, comme il y avait sur WoTCG. S'il y avait un mode de raid, des 3 contre 1, des choses comme ça, vraiment folles, oui. Mais juste un contenu PvE sur un jeu de cartes, où littéralement, la plupart des joueurs ne font que passer pour choper les cartes.
Ça, c'est vrai que les aventures, on les faisait parce qu'on nous disait vas-y, fais quoi. C'est parce qu'il y avait la carotte de tu vas gagner des cartes ou tu vas gagner un d'autres cartes quand on est un
Ah, ah
collectionneur.
bah moi franchement si
Mais
c'était
c'est
pas pour vous
vrai que
faire les
voilà.
guides d'aventure etc qu'on vous a fait à chaque fois avec les decks etc si c'était pas pour ça j'aurais fait le mode normal et je n'y aurais plus jamais touché jamais d'ailleurs j'aurais plus jamais touché donc voilà ça on est content je pense que ça va être une belle année et il y a quelques petites news de plus alors déjà il prévoit de booster un petit peu l'organisation de tournois en mode libre, en mode wild. Et les gens qui disent sauvage en français, vous méritez de brûler en enfer. Je l'ai eu fait aussi. Donc en format libre, ils vont booster un petit peu les tournois, notamment avec des partenaires, des organisateurs tiers. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je pense que c'est viable à Magic, ça marche bien. Est-ce que là sur Hearthstone ça va prendre? Je suis pas convaincu du tout. J'espère, mais je suis pas convaincu du tout.
Ben en fait, enfin, d'un côté, je suis content qu'il y ait des tournois en mode libre parce que ça va donner du crédit à ce mode parce que ben, absolument aucun joueur légende et qui avait une prétention en termes de niveau compétitif ne s'intéressait au mode libre. Il faut être honnête, hein. Aucun joueur qui est actuellement en course pour les qualifications BlizzCon n'a touché au mode libre de l'année. Par contre, il y a un problème, c'est que ils ont dit, en termes de marketing et d'image depuis le début, le mode libre, ça sert à faire tourner les cartes et à mettre de côté les cartes qui sont trop fortes pour le mode compétitif. Et là, ils veulent faire un mode libre compétitif. Je trouve qu'en termes de message, c'est totalement illogique.
Bah après sur Magic c'est fait, t'as le Legacy.
Oui,
C'est
et le
pas. Ils veulent
Legacy
pas en faire
est
un mode
vu.
compétitif.
Voilà,
Ils
mais le
veulent.
Legacy est quand même vu comme un Yu-Gi-Oh! bis, c'est-à-dire un mode de jeu qui n'a aucun intérêt compétitif parce que mais tout simplement, il se passe n'importe quoi en Legacy à Magic, comme à Yu-Gi-Oh! maintenant, parce qu'ils n'ont pas fait de standard et que toutes les cartes sont autorisées depuis la création, sauf une shortlist de cartes interdites. C'est des matchs où c'est n'importe quoi, et quand un match arrive au tour 4, c'est un miracle.
Oui, mais voilà, après, ils veulent le supporter et ils veulent créer des tournois, des choses comme ça. Ils veulent pas le rendre compétitif. Ils veulent pas le rendre compétitif, ils veulent qu'il y ait plus de choses autour. Je veux dire, faire des tournois, ça ne veut pas dire le rendre compétitif. Je pense que là, il y aura. Contrairement à ce qui pouvait se faire, par exemple, sur WoTCG, à une époque, sur WoTCG, il y a un des championnats du monde où il fallait que tu aies un deck libre, l'équivalent à l'époque, un deck libre, un deck de standard et tu avais du draft. Fallait que tu joues dans tous les modes de jeu pour être champion du monde.
Ça,
Je
ok. Ça, je comprends.
pense pas du tout que c'est l'idée ici. Je pense que ici, l'idée, c'est juste on va faire des tournois parce qu'il y a des gens qui aiment bien jouer comme ça, des trucs fun, des trucs où tu peux gagner un peu de thunes, où tu peux gagner des goodies, où tu peux gagner des trucs. Tu vois? Moi, je verrais bien, tu vois, ça, les tournois à goodies, tu vois. Un tournoi pour pas gagner de l'argent directement. Mais tu vois, par exemple, gagner des faire des tournois spéciaux où tu peux gagner seulement des vieilles cartes, des tournois où tu peux gagner des d'autres cartes, où tu peux gagner des goodies Blizzard particuliers que Blizzard t'enverrait. Tu vois, vraiment un truc où tu as un intérêt, mais où c'est pas genre, voilà, on est tous en tryharder, tu vois. Vraiment un truc parallèle pour les gens qui ont envie de, quand même, de jouer de manière sérieuse, vraiment s'affronter, mais rester dans une ambiance fun.
Bah alors ça, par contre, je suis totalement d'accord avec l'idée, parce que je pense aussi que c'est l'idée qu'ils veulent véhiculer dans le mode libre, c'est-à-dire bah jouer sans contrainte, en fait, sans avoir besoin d'avoir les dernières cartes à la mode, sans avoir besoin d'avoir le deck compétitif, etc. Donc ça, je suis totalement d'accord avec l'idée d'un mode qui encourage à la liberté de création et à la construction de deck plus qu'au niveau de jeu et à la maîtrise de 4 ou 5 decks en particulier. Ça, oui.
Ah oui,
Par
et
contre,
je tiens.
si un jour ils ont comme marketing de dire le mode libre, on va le mettre au niveau du standard, là, par contre, je pense qu'ils se plantent.
Oui. Je tiens à dire qu'ils ont annoncé, je crois que c'est Ben Brod qui a annoncé ça, qu'ils sont encore en train de se dire que peut-être qu'ils vont bannir une autre carte. Une autre carte du standard et le faire passer en Hall of Fame. ce serait Géant de lave et le rebuffer à ses stats de base. Et moi, je suis
Oui, c'est que.
totalement pour ça. Je leur demande.
Oui, ça n'existe pas. En fait, Géant de lave pour l'instant n'existe plus dans
Dans le
leur spawn.
standard.
Donc tant qu'à faire, mettez-le en libre, quoi.
Dans le standard. Enlevez. Faites passer en Hall of Fame. En Hall of Fame, Gnome Lépreux. Faites passer en Hall of Fame.
Jongleur de couteau.
Faites passer
Remettez-le en
Jongleur de
3-2 et
couteau.
mettez-le là-bas.
Encore que Jongleur de couteau était encore jouable, limite jouable. Faites passer l'ancien. L'ancien du bosquet, faites repasser la force de la nature et rendez-nous les cartes qu'on a eu l'habitude de jouer parce que je pense que ça fera plaisir à certains joueurs de revenir et de jouer un druide combo. Parce qu'il y a des gens qui kiffaient druide combo, et bien ils devraient pouvoir revenir et jouer druide combo en libre. Il y a des gens qui kiffaient le vieux Handlock, ils devraient pouvoir jouer le vieux Handlock. Il y a des gens qui
Par contre,
kiffaient jouer Hunt.
laissez commissaire à 6, sinon ça va être le bordel.
Oui, non, voilà, ça bien sûr, mais il y a certaines cartes que vous avez nerfées et que vous avez clairement nerfées pour les tuer parce qu'elles faisaient du mal au jeu, et vous avez bien fait de les nerfer, mes amis de chez Blizzard, mais ces cartes-là que vous avez tuées, mais
Maintenant que vous avez l'idée du Hall of Fame.
voilà, finissez-les, mettez-les en Hall of Fame, remettez-les comme on a eu l'habitude de jouer, et des fois, mais même moi, ça va me faire plaisir d'aller mettre un double combo.
Rendez-nous le force de la nature, innerve, innerve, rugissement, rugissement.
Voilà, c'était des
C'est
bons moments.
dégueulasse, c'est dégueulasse, hein. Mais on s'en fout, on est en libre.
Et voilà, on s'en fout, on est en libre et ça nous faisait plaisir de le jouer avant. Et je suis sûr que plein de gens reviendront rien que pour ça. Donc, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, bizarre, faites ça. Autre info, ils vont avoir un programme dédié. Enfin, une fonctionnalité dédiée dans le client du jeu. Pour aider les Fireside Gathering pour pouvoir mieux faire des tournois entre amis directement avec le truc du jeu. Pas grand chose à dire à part que mon Dieu, enfin!
Ouais, enfin, j'ai même envie de dire, allez au bout du truc, faites un foutu mode tournoi.
Faites
Vous
un.
avez un jeu où il y a 20 millions d'utilisateurs. Investissez, je sais pas, payez un mec, deux mecs, 25 mecs, je sais pas ce que ça représente, mais faites un mode tournoi.
Façon, c'est Blizzard! Vous avez de
Voilà.
l'argent! Arrêtez!
Faites un mode dans lequel quelqu'un gère, c'est-à-dire tu crées ton tournoi, et quand tu t'inscris, tu arrives sur une liste de serveurs ou de trucs que tu rejoins. Et il y a quelqu'un qui est en charge de vérifier, qui valide les gens, et tu rentres dans un tournoi, et tu as le bracket dans Hearthstone, et quand tu cliques sur ton match, ça te lance ton match. Qu'on arrête de passer par des sites de tournois qui eux-mêmes envoient sur des plateformes de pick et ban, qui eux-mêmes t'envoient sur Hearthstone parce qu'il faut s'envoyer des screens, et c'est un bordel. Mais faites un mode tournoi qui marche, qui est bien fait. Ne faites croire à personne que vous n'en avez pas la capacité,
Mais
parce
en
que
tout cas,
personne vous croit.
c'est un pas. C'est un pas vers ça. Ils sentent qu'il y a le besoin de rajouter des choses. Ça va pas assez loin, mais j'espère qu'il va y avoir plein de trucs de ce côté-là. Notamment, mettez-nous un mode tournoi. Et quand je dis mode tournoi, c'est pas ce que dit Den. Même si ce que dit Den est très très bien, je suis totalement d'accord avec lui. Mais un mode partie de tournoi, avec une pause. Vous avez tellement de problèmes au HCT en ce moment même. On les enregistre et HCT sont en train d'être joués. Il y a des
Voilà.
problèmes de déconnexion parce que vous n'avez pas
Voilà.
de mode pause. Sur tous les jeux, il y a un mode pause. Sur
Mais même
Overwatch, vous avez un mode pause. Sur
voilà, sur d'autres
StarCraft,
jeux,
c'est le
sur
premier
d'autres
qui l'a
jeux Blizzard,
inventé.
quoi.
Oui,
On
sur
est.
d'autres jeux Blizzard, il y a un mode pause. Vous êtes capable de le faire. Vous avez les infrastructures. Vous avez la capacité. Vous avez la technologie. Faites un mode pause. Parce que par exemple, des tournois qui ont été tués, je pense à la DreamHack 2016.
16.
DreamHack 2016, elle a été tuée. Il y a des matchs où moi, je perds des manches au bout de 4 manches où on a dû refaire. Et comment tu... Est-ce que ça s'est vraiment joué? Est-ce que c'était vraiment la manche? Est-ce que j'aurais dû gagner deux fois, trois fois? Comment on compte? Ça a vraiment cassé le tournoi. Et il y a plein de joueurs... Qui ont pété des câbles parce que ça a cassé le tournoi. Parce que, effectivement, il y avait des problèmes de connexion, c'était pas la faute de leur gars, mais des fois ça arrive. On est sur de l'e-sport, l'e-sport c'est de l'internet, c'est des problèmes techniques, et il faut faire avec. C'est le seul jeu où il n'y a pas de pause, Hearthstone, alors que c'est le deuxième plus gros jeu e-sport derrière League of Legends. Au niveau du nombre de viewers moyens, au niveau du nombre d'argent qui tourne, ça a dépassé Dota 2, ça a dépassé CSGO. Mettez-nous une pause! Et dernier truc, enfin deux derniers trucs, ils vont nous faire des récompenses de connexion journalière. Là, on voit que ils comprennent enfin que le marché du mobile a évolué et que sur tous les jeux mobiles, que ce soit les jeux de cartes, leurs concurrents, hein,
on dira simplement hashtag Candy Crush.
Voilà. Alors, on parle de Candy Crush, mais c'est, ça appartient aussi à Blizzard, entre guillemets. Enfin, à EA, mais... non, il y a...
Dans le monde du jeu dématérialisé, qu'est-ce qui n'appartient pas à Blizzard,
ouais,
par un moyen dérivé ou non.
Mais voilà, que ce soit Shadowverse, que ce soit Crossmaga, que ce soit Gwent, etc. Tous les jeux, Dragon Ball Z Dokkan Battle, très bon jeu sur portable, jeu mécar. Il y a des connexions journalières, c'est normal, ça attire les gens, ça fait que les gens se connectent tous les jours, ça permet d'augmenter ton nombre, tout simplement, pour tes investisseurs c'est très important, c'est con à dire, mais ça plaît aux joueurs d'avoir tous les jours un petit peu d'or, et par exemple tous les 7 jours t'as un paquet, ça te force à jouer, à rester, à revenir, ne serait-ce qu'à allumer le jeu, donc ça c'est bien. Et dernier truc, bah Maiev, nouveau deck rogue qui va être donné, tu fais 10 parties, tu l'as.
Nouveau portrait Rogue, pas deck.
Oui, nouveau portrait Rogue. Quoi dire à part que Maiev c'est vraiment un personnage de merde parce qu'elle a fait du mal à Illidan Sama.
Déjà, je suis content que ce soit pas encore un personnage pour le mage. C'est déjà un bon point.
c'est vrai que des mages on a pas mal.
Voilà, enfin c'est bien. Vous avez compris qu'il y avait des persos qui n'avaient pas encore eu de personnage alternatif alors que d'autres en ont déjà eu 3. Big up. Bravo, je vous félicite pour ça. Voilà, donc maintenant, en fait, quand vous sortez un personnage alternatif, si c'est pas démoniste ou druide, puisque c'est les deux qui n'ont rien eu, il me semble, voilà, vous serez planté.
Après, ils ont toujours le problème que trouver un autre démoniste connu dans le lore, c'est très complexe.
Oui, non, mais je dis pas que c'est obligatoire. Je dis juste que faites un effort.
Et hey, voilà, Illidan en démoniste, c'est un chasseur de démons, mais bon, il gère des démons, etc. Pourquoi pas, non? Il fait des Chaos Bolt, tu vois aussi.
Dans le lore de Warcraft, excuse-moi, mais les trois quarts des persos ont été corrompus à un moment ou un autre, alors tu fais un personnage alternatif d'un connard qui se fait corrompre et c'est fini.
Ouais, qui est démoniste. Mais voilà, mais déjà là, ils vont un peu plus loin, parce que tu vois, Maiev de base, c'est pas une voleuse. On aurait pu avoir Garona, mais voilà, Maiev est pas de classe voleuse, c'est une gardienne, elle a une grosse armure en plaque. Etc. Donc c'est pas vraiment une voleuse, mais voilà, ça rentre un peu dans l'archétype, dans le côté je suis un peu dans les ombres et tout, donc voilà, on aime bien. Mais du coup ça va être tout sur cette année du mammouth. On a beaucoup parlé, on vous a donné toutes nos impressions sur absolument tout ce qui allait arriver. C'était pas mal, et je pense que on était assez deux. Du coup, pour tous ceux qui sont encore là, parce que je pense qu'il y en a qui sont encore là, ou ceux qui ont avancé à la fin de la vidéo.
Imhotep.
Alors, je vous rappelle, on n'a toujours pas de nom. Donc, c'est parti. Je vous fais la promesse. La personne qui trouve un nom que je prends, parce que je le trouve trop bien et que ça devient le nom de l'émission, je lui offre un cadeau.
Ou alors, elle est invitée à une émission.
Oui, la personne d'ailleurs sera invitée à l'émission pour parler avec nous. Voilà. Et y aura un cadeau en plus. Il y aura un cadeau. Je sais qu'il y aura un cadeau. Il y aura un cadeau. Voilà. On aura des invités pour la suite. Pareil, n'hésitez pas. L'idée, c'est toujours de discuter. Alors là, voilà, on parle de l'actualité parce que forcément, il y a de l'actualité. On ne parle pas des HCT pour l'instant, etc. On en parlera sûrement la prochaine fois. On vous fera des fois des petits retours sur des tournois, sur comment ça s'est passé pour la team Jojip et le reste du monde. Mais si vous avez des idées de débat que vous voulez qu'on traite, ce sera peut-être pas de suite. Mais voilà, n'hésitez pas parce qu'on est là pour parler Hearthstone avec Baden, avec moi et avec des invités. Donc voilà, c'est pour vous. On a bien entendu que vous vouliez plus de contenu, alors forcément on fait à notre niveau ce qu'on peut vous faire, mais on le fait parce que nous on veut vous faire plaisir.
Et d'ailleurs, si vous avez des idées de choses, enfin si vous avez des idées de sujets, si vous avez des envies, ça peut être absolument n'importe quoi, une line-up que vous avez vue et qui vous a particulièrement intéressé, une news de Blizzard, un deck,
Ah oui, pouf.
Un match, c'est absolument n'importe quoi à partir du moment où ça a un lien avec Hearthstone, si possible.
Avec
Voilà.
Hearthstone ou les pandas. On sera capable de parler de Pandaru aussi.
Si vous êtes capable de nous faire les pandarous dans Hearthstone, alors là.
Alors là, je ne dis pas ce qu'on fait, mais ça aura des rapports sexuels. Merci à tous de nous avoir suivis. Den, merci d'avoir été là après ta soirée qui a été, je le sais, longue.
Oui, mais ça va, j'ai vécu. J'ai
Voilà,
bien
on vous
vécu.
souhaite de très très bonnes suites sur Hearthstone, une très très bonne année du mammouth. Et si ça vous plaît, bah, écoutez, on revient très très vite vous faire un nouveau numéro de l'émission qui n'a pas de nom. Salut les copains!